France Culture, l'esprit public, Hervé Gardette.
Monsieur Zuckerberg, vous et votre entreprise, je sais que vous ne le vouliez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit. Vous avez un produit qui tue les gens.
Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu. Personne ne devrait subir ce que vos familles ont enduré. Et c'est pourquoi nous investissons autant et nous allons continuer à déployer des efforts à l'échelle du secteur pour nous assurer que personne n'ait à subir ce que vos familles ont dû endurer.
Allez, Mark Zuckerberg qui avait sans doute imaginé un anniversaire plus festif. Sa créature Facebook célèbre ses 20 ans ce dimanche, mais en guise de cotillon, Zuckerberg a eu droit à une volée de bois vert mercredi devant le Sénat américain. Vous avez du sang sur les mains, vous l'avez entendu, c'est ce que lui a lancé le sénateur républicain Lindsey Graham en référence aux dangers encourus par les enfants et les adolescents qui fréquentent les réseaux sociaux. Alors certes, le patron de Meta, qui outre Facebook possède aussi Instagram et WhatsApp, n'était pas le seul dans le collimateur des élus américains. Ses collègues de Twitter, ou X désormais, TikTok et Snapchat se sont eux aussi fait tirer les oreilles, accusés de ne pas suffisamment protéger les jeunes des risques de suicide ou d'exploitation sexuelle. Mais le plus emblématique d'entre tous, parce que pionnier du genre, c'est Zuckerberg. Or, tout commence comme dans un film, le 4 février 2004, dans une chambre d'étudiants à Harvard. Avec trois de ses amis, le jeune ingénieur lance un annuaire en ligne qui permet de connecter entre les élèves de la célèbre université américaine. Succès quasi immédiat. Petit à petit, Facebook s'étend à d'autres campus aux États-Unis avant de partir à la conquête du monde. Aux dernières nouvelles, le réseau social, bien que vieillissant, reste le plus fréquenté de la planète avec 3 milliards d'utilisateurs. Alors on estime aujourd'hui à 60% la part de la population mondiale connectée à un réseau social. En France, c'est plus de 80%. C'est considérable et c'est paradoxal car les réseaux sont considérés dans les mêmes proportions comme dangereux, trop addictifs, trop narcissiques, vecteurs de désinformation, de complotisme, de harcèlement, n'en jetez plus. Alors, la promesse initiale de Facebook était pourtant tout autre, de nature libertaire. Il s'agissait d'offrir un espace de discussion ouvert à tous, où chacun peut s'exprimer à égalité avec les autres sans censure. Un monde de totale liberté, mais aussi de totale transparence, où la vie privée passe au second plan. Aucun autre réseau, peut-on lire cette semaine dans le Figaro, n'a poussé aussi loin la dévoration numérique de notre intimité. Alors, faut-il souhaiter un bon anniversaire à Facebook? Pour commencer d'abord, peut-être un tour de table. Levez le doigt, celles et ceux qui sont sur Facebook, qui ont un compte. Vous ne vous en souvenez
pas? Moi, j'ai un compte, mais je m'en sers
Sylvie.
Pas.
Moi, c'est pareil.
Eric,
il est endormi, mon compte, depuis des années.
Ni Catherine Tricot, ni Jean-François Colosimo. Pourquoi vous en servez pas ou plus?
Parce que j'en utilise d'autres, que j'ai pas le temps d'être sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est trop. Ça prend trop de temps, tout simplement. Et que j'ai trouvé que celui-là était moins intéressant que les autres.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a une flopée. On peut citer X, Snapchat, TikTok. Évidemment, Blue Sky maintenant, qui est une réponse un peu plus vertueuse, semble-t-il,
LinkedIn,
à ce qu'était Twitter.
Vous pouvez passer votre journée, effectivement. Dessus.
Catherine Tricot, la promesse initiale des réseaux sociaux, c'était d'offrir un espace de totale liberté d'expression où, un peu comme on le dit dans certains slogans, une voix, c'est un vote.
Une voix.
Tout le monde compte de la même manière. Est-ce que cette promesse-là, au moins, elle a été tenue?
Je pense qu'il y a quand même des choses très considérables qui se sont passées dans les sociétés qui n'auraient pas pu advenir sans ces réseaux sociaux. Et en effet, il y a un rêve d'égalité et de démocratie horizontale qui a en partie abouti. On ne peut pas imaginer les révolutions arabes sans les réseaux sociaux. On ne peut pas imaginer MeToo sans les réseaux sociaux. On ne peut même pas imaginer les gilets jaunes sans les réseaux sociaux. On ne peut pas imaginer cet été les jeunes qui décident de se connecter et de réagir à la mort de Naël sans les réseaux sociaux.
En même temps, il y a eu des révolutions avant que les réseaux sociaux n'existent.
C'est tout à fait vrai, mais cela donne un pouvoir... Ça donne un pouvoir d'agir démultiplié. Ça donne aussi une capacité de... Alors, on va parler certainement de la désinformation, mais ça donne aussi une possibilité de s'informer autrement dans un moment où on n'est pas toujours très content du filtre que représentent les grands médias. Donc on trouve d'autres informations ou des choses qui montent et qui prennent beaucoup d'importance alors qu'elles auraient pu passer tout à fait au second plan. Je viens de parler à l'instant de la mort de Naël. On ne peut pas imaginer, en dehors de l'organisation des jeunes, le retentissement qu'a eu cette vidéo, qu'on a tous vu cet enfant se faire tuer par un policier en direct. Boum. Et ben, c'est donc ça donne une puissance aux citoyens pour parler, pour faire savoir, pour s'organiser. Donc je pense que c'est... Après, il y a tout un tas de problèmes que cela pose, et notamment le fait que les GAFAM sont devenus des puissances économiques de contrôle. Et par exemple, pour la presse, ça a des impacts considérables. Les choix qu'ils font des algorithmes, par exemple, on vient de parler de Facebook. Facebook, on a tous vu, enfin, vous dirigez un journal, moi aussi, les effets sur la presse du changement d'algorithme de Facebook. Ça s'est écroulé parce que Facebook a décidé qu'elle ne relayait plus les journaux. Donc voilà, mais ça a changé vraiment les sociétés.
Alors on reviendra dans un instant sur la façon dont ça a changé la façon de s'informer. Et donc ça a aussi dû renouveler la façon dont la profession s'organise. Mais pour rester sur la promesse, Jean-François Colosimo, donc espace de liberté d'expression, ça, c'est aussi ce qu'on lui reproche, espace d'égalité, et la fraternité, est-ce que c'est ce qui manque dans les réseaux sociaux?
C'est une idéologie libertaire qui aboutit dans l'hypercapitalisme financier, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est une promesse de liberté qui finit dans des trucs cauchemardesques où lorsqu'on se fait choper par des cinglés, on passe sa vie à essayer de remonter le courant pour essayer d'expliquer que non, on n'était pas là ce jour-là, que non, c'est pas moi, que ceci, que cela. Enfin, je veux dire, comment on peut prendre tout ça au sérieux, autrement qu'en voyant que cette dématérialisation de l'information, qui s'est traduite aussi par une déhiérarchisation de l'information, par une non-filtration de l'information. Enfin, tout ce que les journaux assuraient avant, on n'était pas obligé d'acheter le même journal, il y en avait suffisamment pour qu'on y retrouve ses goûts chaque magazine ou chaque média ayant évidemment un peu son filtre. Enfin, le filtre était donné, donc on pouvait même se corriger, n'est-ce pas? Il y a même certains journaux qu'on pouvait lire à l'envers. Comme ça, on était sûr de savoir à peu près ce qui se passait, n'est-ce pas? Bon, donc, de ce qu'ils annonçaient...
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
La Pravda, je crois.
Non, je plaisante, oui.
Vous pensiez à un autre?
Non. Il faut lire entre les lignes, quelquefois, voilà.
Non, je pensais à la Pravda, c'était ça, ouais. La Pravda, il suffisait d'inverser les nouvelles pour être sûr d'être informé, non? Donc, voilà, donc, c'est là où on en est, n'est-ce pas? Et on en est face au fait que ces multinationales, c'est même pas des multinationales au sens classique d'ailleurs, parce que c'est une autre forme de capitalisme, qui ont des capitalisations à la bourse de New York hallucinantes, qu'on n'arrive pas à se représenter. Bah, elles ont échappé aussi aux contrôles gouvernementaux, elles ont d'autant mieux échappé aux contrôles gouvernementaux que pour ce qui est des Américaines et de la chinoise TikTok, c'est évident que, en dépit de leurs promesses libertaires, elles rendent des services, n'est-ce pas ? Au service de renseignement.
Oui, mais ce que disait Café Tréco, c'est que ça a permis à certains mouvements d'avoir une audience inespérée.
Il y en a peut-être, on va pas peut-être tous les passer en revue. Les printemps arabes sur lesquels on a fait le plus d'écho, à mon sens politique, hein, sur le message politique, le printemps arabe, c'était quand même des islamistes en embuscade qui attendaient que les gamins aient fini d'être pas sur TikTok. C'est comme ça que ça s'est fini partout, en tout cas. Voilà. Donc, moi, je crois que je suis bien sûr pour la circulation de l'information. Il y avait certainement des moyens d'information à trouver qui allaient avec la dématérialisation. Mais très sincèrement, je ne vois vraiment pas ce qu'on a gagné, à part une forme un peu d'anarchie chaotique où règne quand même une forme de violence, la capacité de lynchage, le tribunal médiatique... Enfin, c'est un peu le tribunal plutôt viral, je dirais, que c'est pas le tribunal médiatique, parce que le tribunal médiatique, c'est autre chose, etc. Enfin, je trouve tout ça véritablement un monde effrayant. Et comme je regarde de temps en temps quand même la télévision, c'est un vieux, vous voyez pas, je regarde pas que les écrans, j'ai vu des documentaires où effectivement, les créateurs de ces espèces d'univers parallèles monstrueux expliquent eux-mêmes qu'ils interdisent à leurs enfants de les utiliser, n'est-ce pas? Alors, donc, voilà, ceux qui administrent le poison se gardent de le prendre. Voilà, donc c'est bien du poison, même selon eux.
Alors, est-ce que pour paraphraser un certain Georges Marchais, Sylvie Kaufmann, puisque vous évoquiez la Pravda et le rapport à l'URSS, vous diriez, Sylvie Kaufmann, que le bilan de Facebook et des réseaux sociaux est globalement négatif, plutôt pour suivre Jean-François Colosimo, ou globalement positif, pour être plutôt du côté de Catherine Tricot?
Je pense que le bilan, il n'est pas encore totalement fait. Si on reprend la perspective historique, vous dites 2004, c'est très frais. Hein. Google a été créé en 98, tout ça, il y a quand même eu à la, tout ça commence dans les années 90, cette explosion de la révolution Internet, c'est très frais encore.
Mais d'autant que 2004, commence... c'est pour Facebook, mais oui. L'arrivée en France de Facebook, c'est 2008, donc c'est encore plus frais.
Voilà.
Que ça.
Et on voit bien à quel point c'était une révolution. Je pense vraiment qu'on peut équivalente à, je sais pas, au moteur à explosion, ou c'est quelque chose qui est, comme Catherine l'a expliqué, c'est vraiment quelque chose qui a totalement modifié le fonctionnement intellectuel et social de nos sociétés, sans parler du rôle politique dans ces mouvements de masse, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des révolutions avant Internet, heureusement. Mais bon, donc on a eu cette première période, je dirais, au début des années 2000, qui était vraiment une période d'espoir très, très, très positif. On voyait cette créativité exploser, l'innovation, la communication se libérer. Et c'est, moi, j'étais aux États-Unis à cette époque-là, et c'est vrai qu'on voyait ce phénomène comme quelque chose de porteur d'ouverture du monde, des esprits et d'innovation intellectuelle à puissance démultipliée. Et puis après, il y a eu la face sombre qui a émergé. Alors, y compris dans ces mouvements politiques de masse, il y a eu le côté positif, c'est-à-dire que l'information circulait parmi les gens qui voulaient se soulever, etc. Et puis, l'outil a été récupéré aussi par les dictateurs et par les régimes autoritaires, et s'est retourné contre les populations elles-mêmes. Donc voilà, on a commencé à voir tous les usages qu'on pouvait faire de ces outils. Ensuite, il y a eu l'aspect commercial, avec tous les scandales Cambridge Analytica, le détournement des données personnelles par millions d'utilisateurs et à des fins politiques, avec le phénomène Trump qui en a profité, le rôle dans le Brexit, voilà.
Donc, je rappelle juste un Cambridge Analytica, donc c'était une agence de conseil qui a absorbé, siphonné des données de Facebook pour favoriser, alors notamment, la campagne de Trump, la campagne du Brexit.
Voilà. Absolument. Et alors là, on arrive à un moment où on se dit il faut faire quelque chose. La création a échappé à son créateur d'une certaine manière. On est un peu dans un schéma Frankenstein. On se dit il faut absolument faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez parlé tout à l'heure de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est à une échelle qu'il est très difficile de réguler. Ce sont aussi des acteurs qui dépassent le rôle des États. Hein. Pendant des siècles, on avait l'activité du monde était en fait dominée par les États. Les acteurs principaux étaient les États. Et là, maintenant, on a des sociétés, des entreprises privées avec des individus, même quand vous voyez Zuckerberg ou Elon Musk qui ont un pouvoir absolument énorme et qu'on ne sait pas comment contrôler. Donc, il y a des possibilités de régulation qui sont en train de se mettre en place. L'Europe est évidemment en première ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe est en première ligne de la régulation avec des initiatives très, très intéressantes comme la RGPD, etc., qui donnent envie d'ailleurs aux régulateurs américains. Mais en revanche, alors nous, on essaye de protéger, mais on n'a rien créé vraiment nous-mêmes de comparable à ces sociétés qui sont essentiellement américaines et chinoises. Donc on est quand même dans un paysage très inégal. Et l'autre instrument, très rapidement, mais ça c'est vraiment au niveau de base de la société, qui moi je pense est peut-être plus prometteur si on le met en œuvre que la régulation, c'est l'éducation aux médias. C'est-à-dire que ça commence, mais je crois que c'est un outil essentiel qu'il faut vraiment généraliser, apprendre aux jeunes générations, à l'école, de manière obligatoire, comment se servir de ces outils.
Même si les jeunes sont peut-être mieux à même de se servir de ces outils que notre génération à nous qui n'est pas née avec.
Et qui peut être comment comprendre les dangers.
C'est souvent sur les
jeunes qu'on met la pression, comment, mais je ne suis pas sûr que moi, à plus de 50
comment
ans,
discerner
je sois mieux armé.
Non, mais comment discerner une fake news sur un réseau social, par exemple? Ça peut s'enseigner.
Éric Fautorino, Facebook a 20 ans aujourd'hui. Oui. Je crois que le 1 a 10 ans.
Oui, le 1 a 10 ans, mais nous avions consacré un numéro qui s'appelait « Facebook est-il notre ami ?» et j'avais trouvé le premier critique de Facebook, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, dans sa 6e lettre morale de 1758, « La vanité de l'homme est la toile d'araignée qu'il tend sur tout ce qui l'environne. » Alors, il dit qu'il faut laisser la toile tranquille. Commençons par redevenir nous, par nous concentrer en nous, par circonscrire notre âme des mêmes bornes que la nature a données à notre être. Commençons en un mot par nous rassembler où nous sommes. Autrement dit, plus l'homme crée une toile, il s'éloigne de son centre à lui. Et je pense que Facebook nous a complètement décentrés, nous a sortis de nous. Alors, la question c'est de savoir, est-ce qu'il nous a rapprochés ou est-ce qu'il nous a divisés? Et là, il y a un autre auteur très important qui n'a pas connu Facebook, qui était Jacques Ellul, ce philosophe, qui disait « toute technologie nouvelle est ambivalente ». C'est-à-dire qu'en effet, elle apporte quelque chose. Voilà, peut-être la capacité à se réunir sur une place pour protester contre un dictateur, mais elle permet aussi à un dictateur d'aller contrôler, c'est le cas pour TikTok, le gouvernement chinois, il peut savoir ce que font tous ses concitoyens. Donc, pour moi, le Facebook, il y a plusieurs problématiques qui restent justement des problèmes aujourd'hui. Le premier, je me souviens quand Zuckerberg avait été interpellé là-dessus, c'est de dire, c'est l'irresponsabilité. C'est-à-dire que Zuckerberg, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit... Moi, je crée un espace, je crée une rue. Si vous vous faites agresser dans la rue, c'est pas mon problème. J'ai créé un espace, ce qui vous arrive dans cet espace, c'est pas à moi de le contrôler. Et ça, je pense que pour nous qui sommes des journalistes, ça veut dire...
Il le dit de moins en moins quand même, parce que justement, il a été auditionné à plusieurs reprises par les...
Il a fini par le dire moins, mais enfin, il l'a dit suffisamment pour que cet espace devienne un endroit un peu sans foi ni loi, où on peut, en effet, comme dit Jean-François Colosimo, se faire agresser, se faire lyncher médiatiquement, etc. Donc cette idée qui est... exactement contre ce qu'est un éditeur. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité éditoriale? Quand vous écrivez ou laissez écrire quelque chose dans votre journal ou à votre entête, vous avez une responsabilité. Facebook ne se reconnaissait pas, alors peut-être s'en reconnaît-il une responsabilité plus grande aujourd'hui, ne se reconnaissait pas de responsabilité sur ce qui était publié, moyennant quoi les appels à la haine, tout ce qui est les discours antisémites, tout ce qu'on veut, pouvait trouver une place là. La deuxième chose qui pour moi est quand même reste à la fois fascinante et terrifiante, c'est que chacun d'entre nous, dans ce studio, nous avons notre ombre numérique. Nous sommes des fourmis numériques, comme disait Bernard Stiegler, c'est-à-dire que nous travaillons pour Facebook. Tout ce que nous allons demander, tous les goûts que nous allons exprimer, va constituer de nous un double numérique qui en sait plus sur nous que nous. Et qui va, au fur et à mesure, devenir la cible idéale pour tout ce qui est la société consumériste qui va nous vendre tout ce qu'on veut, qu'on n'a pas demandé nécessairement, mais qu'on veut.
Et donc, nous le savons, ça, aujourd'hui. Et pourtant, on continue.
Les bulles filtrantes. Mais oui, alors, c'est ça. Comment on arrête une machine comme ça? C'est comme si demain, vous rentriez dans un kiosque à journaux et il n'y a que le journal que vous aimez. Parce que les autres, vous n'allez même pas les voir. Les bulles filtrantes font qu'on va, au fur et à mesure de vos goûts et de vos élans, de vos prises de position, l'algorithme dont vous parliez tout à l'heure, Catherine, ne va vous envoyer que ce qui finalement conforte votre opinion. Donc, on croyait que vous alliez être ouvert à l'autre, et au contraire, vous vous fermez à l'autre pour une sorte de confrontation.
Mais est-ce que ça n'est pas faire peser une responsabilité un peu trop importante sur les réseaux sociaux, justement sur ces bulles qui nous enfermeraient et nous éloigneraient des gens qui ne pensent pas comme nous? Quand les réseaux sociaux n'existaient pas, Catherine Tricot, si on était par exemple de gauche, on avait sans doute beaucoup plus de chances d'avoir des amis de gauche et peu de droite. Oui. Et inversement, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose là?
Ça, je ne sais pas, je ne crois pas, en vérité. Je pense que probablement que les affinités, elles étaient déjà, et le mélange et l'ouverture sur le monde. Parce qu'en fait, vous disiez tout à l'heure, Eric, que ça nous décentrait. Ça nous a aussi permis de prendre conscience de l'univers. Du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, on parlait des révolutions arabes, ils se sont aussi vus. Et ils ont envoyé des messages, et ils se sont vus, et nous les avons vus. C'est-à-dire que ça a aussi unifié la planète. Donc je pense que c'est quand même, ça nous a pas simplement décentré, ça nous a aussi permis de comprendre que nous étions un dans le monde. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que, comme vous l'avez dit très bien, c'est que, en effet, c'est ambivalent. Et donc, si c'est ambivalent, c'est que c'est politique. Ça veut dire qu'il faut des luttes politiques. C'est-à-dire qu'il faut réussir à construire cette question-là comme une question politique. Il y a la Quadrature du Net, qui est une association que moi je trouve extrêmement pertinente, parce que ça fait 15 ans maintenant qu'ils s'attachent à essayer d'identifier où ça se joue, à quel endroit ça se passe et quels sont les leviers qu'on pourrait avoir. Alors là, j'ai regardé pour préparer cette émission un petit peu ce qu'ils ont mis en avant comme revendication que je trouve assez intéressante. Par exemple, ils disent il faut avoir l'interconnexion entre les réseaux sociaux. Par exemple, il y a une question toute bête. Twitter, nous savons tous qu'elle est prise par Zuckerberg, qu'elle développe vraiment une idéologie...
Elon Musk,
et qu'elle promeut une idéologie qui peut nous déplaire très fortement quand on, et qu'on utilise. Or, nous avons des communautés sur Twitter. Et donc, quitter Twitter, c'est très compliqué. Beaucoup ont travaillé pendant des années, ont construit une communauté pendant des années. Quitter Twitter, c'est un coût. Donc, il faut un coût personnel, au sens de détruire une communauté, détruire des liens avec des milliers de personnes avec lesquelles vous êtes en interaction.
Ce qui démontre aussi qu'il y a une forme de narcissisme. Quitter sa communauté, c'est aussi quitter une forme de valorisation sociale.
Je ne sais pas si c'est... sur Twitter, il y a des choses que je ne comprends pas très bien dans le narcissisme qui m'échappent. Mais j'ai l'âge de mes artères. Hein, j'avoue que je ne me prends pas en photo pour me mettre sur Twitter et je n'ai pas tellement la pratique du selfie. Et je constate que les jeunes l'ont. Donc je ne peux pas quand même complètement juger à l'aune de mon expérience propre. En revanche, ce que je sais, c'est que sur Twitter, on peut exprimer des opinions, mais le problème, c'est qu'elles sont, en effet, avec les boucles algorithmiques, elles sont vraiment... d'abord, vous êtes insulté en permanence et vous avez peu de diffusion. Donc, la question de quitter Twitter est une question, mais par contre, elle est très compliquée à recomposer. Donc, je trouve que la Quadrature du Net, en disant, il faut qu'on ait le secret de nos conversations, de nos échanges, ça ne peut pas rester public, ça, ce n'est pas possible. D'autant que, par exemple, parce que vous avez beaucoup parlé des régimes dictatoriaux qui contrôlent leur population, mais pardon, en France, on a vu, et le Monde l'a révélé récemment, on voit comment on a du contrôle social qui se fait à travers toutes ces datas qui sont prises par la CAF, la Sécurité sociale, pour essayer de traquer le pauvre qui aurait récupéré 300 euros de manière indue.
Ouais, c'est-à-dire que ce contrôle... Que c'est pas 300 euros, pardon. C'est quelques milliards d'abord.
Non, je m'excuse.
Il y a des pauvres qui sont de véritables escrocs aussi, qui contreviennent à la...
Alors, si vous permettez, je termine mon propos. Le contrôle social par l'État.
On laisse terminer Catherine Tricot et ensuite ce sera vous, Jean-François Pelosi.
Pas le propre des dictatures et donc il y a une question du rapport à l'État, il y a une question du rapport aux GAFAM, il y a une question de l'utilisation par l'État de ces datas et que donc la revendication que met en avant la Quadrature du Net, c'est-à-dire le secret de nos conversations et que ça ne puisse pas être pompé, de l'interconnexion des réseaux sociaux et d'autres revendications qu'ils mettent en avant, vous allez le voir sur leur site.
Jean-François Colosimo.
Je ne suis pas sûr que ces messieurs des GAFAM iront voir le site de la Quadrature.
Non, je parle aux auditeurs. C'était aux auditeurs que je m'adressais.
Mais puisque Eric a
invoqué Rousseau, on peut aussi aller voir du côté de Régis Debray la médiologie, parce que c'est là où ça se joue. L'invention du codex sur le rouleau. Avant, il n'y avait que des rouleaux au départ. Dans le rouleau, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est un défilé. L'invention du codex, on appelle le manuscrit, c'est-à-dire le chapitrage avec des pages. Avant, on revient. Il y a un avant, il y a un après, a véritablement formé la rationalité du sujet social. Ça a été la lecture des monastères, et après, avec la mécanisation, au moment des Lumières, c'est devenu la lecture de l'émancipation démocratique. C'est ce codex, cet aller-retour, cette maîtrise, en fait, du flux, cet ordonnancement aussi du flux, qui est donné, qui n'est pas caché par des algorithmes. C'est tout ça qui fait que on cultive son sens critique ou son sens imaginaire. La fiction et la non-fiction dans les livres, n'est-ce pas? Donc, cet univers-là, c'est un sujet, ou c'est un univers où on forme un sujet qui va être à même de maîtriser le flux d'informations et de le choisir. Dans le retracissement de l'espace et du temps que provoque Internet, puisque finalement, un gars que je connais pas qui est au Japon, je vais me sentir plus proche de lui que de ma voisine qui est en train de mourir à côté de moi, là. Pauvre petite dame.
Bah, là, n'empêche pas l'autre, mais c'est pas formidable de se sentir proche de quelqu'un
au
Japon.
Non, mais là, c'est pas... Enfin, je me soucie des gens, je voulais dire ça aussi.
Non,
je voulais dire que j'étais pas sans cœur. C'est ça le truc. Donc, ce retraitissement de l'espace et du temps, en fait, ne construit pas le sujet, mais le déconstruit, le diffracte. De la même manière qu'il peut être diffracté sur Facebook en différentes tribus qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qu'il peut avoir une espèce d'avatar avec chacune de ces tribus, communautés électives, affectives, idéologiques ou autres. Et
donc
on voit bien
qu'on est plus bête qu'avant à cause des réseaux sociaux.
Non, non, mais le sujet, alors je vais vous dire, le sujet social type Internet 2024, il est plus manipulable que l'ouvrier typographe anarchiste 1900. Pour moi, ça c'est clair. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la même maîtrise de l'information.
Non, je voulais aussi réagir à ce que disait Catherine tout à l'heure, parce que effectivement, on nous avait promis ces réseaux sociaux comme étant une sorte de démocratie augmentée, de dialogue augmenté. On pouvait aller chercher, je me souviens, des documents à la bibliothèque du Congrès, on pouvait converser en effet avec un Japonais ou je sais pas qui. Et finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Je veux dire par là que lorsqu'on émet une opinion, qu'on voit que cette opinion déplaît à d'autres, c'est une sorte de lynchage qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit ou bien je ne parle plus, je ne m'exprime plus, ou bien je me retire carrément. Donc, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que, si je reviens à Ellul sur l'ambiguïté ou l'ambivalence de la technologie, je pense qu'aujourd'hui, si elle devait ouvrir une grande conversation mondiale, finalement, à la fois les filtres et puis cette manière justement de chasser en bande, quoi, d'être des communautés qui tout d'un coup ne débattent pas, qui combattent et qui veulent vous abattre. Et ça, on l'a vu surtout, si vous prenez des sujets un tout petit peu polémiques, vous n'existez plus si vous affirmez de la nuance ou si vous affirmez quelque chose qui va... Les générations offensées, justement, pour le coup, sont offensées alors de tous les côtés. Et là, je trouve qu'en effet, ces réseaux sociaux sont devenus asociaux, de mon point de vue, puisque précisément, ce qui devait être un dialogue avec une écoute, est devenue une sorte d'hostilité affichée. Et sincèrement, quand on a envie, je vois par exemple Raphaël Entoven qui, sur Twitter, ne cesse de répondre à ses détracteurs dans des... Je me dis, mais quelle énergie il passe finalement à faire ça. Moi, j'ai plutôt envie d'arrêter.
Alors c'est vrai qu'il y a Twitter. Alors juste, c'est pas pour défendre Facebook. J'ai aucune action dans le groupe de Mark Zuckerberg.
C'est pas pareil.
Mais sur Facebook, on peut choisir les gens qui vous suivent et ne faire en sorte que ce soit que vos amis qui échangent.
Il y a des alias aussi. Il y a des faux comptes en pagaille, particulièrement pour les célébrités. Ouais. Je ne crois pas que ça soit un univers aussi simple non plus, sans trucage et sans dissimulation. Hein. Je ne suis pas sûr du tout.
Oui. Sylvie Kaufmann.
Oui, moi je crois qu'on est dans un mouvement de balancier. Hein. On a décrit, dans notre conversation, on a décrit un peu les extrêmes, les mouvements extrêmes de ce balancier. Et là, je crois qu'il faut le faire revenir un petit peu vers le milieu. On ne supprimera pas ces réseaux sociaux, et heureusement, puisqu'on a quand même vu aussi les aspects, les dimensions bénéfiques.
Et mais puis on voit les pays où ils veulent les supprimer, les réseaux sociaux, en général, c'est mauvais signe.
Voilà, exactement. Mais il faut arriver à reprendre le contrôle. C'est une phrase qui vaut pour plein de choses en ce moment, et ça correspond à un désir assez, assez souvent exprimé, hein, y compris politiquement, take back control. Reprenons le contrôle de ces réseaux aussi au niveau individuel. On n'est pas obligé de se livrer à la culture du clash en permanence. Je pense qu'il y a une utilisation possible des réseaux sociaux sans se prêter au lynchage et en essayant d'échapper au lynchage.
Je disais tout à l'heure, Eric Fottorino,
le
1 à 10 ans, est-ce que le quand vous avez créé le 1, c'était aussi une façon de répondre à cette hégémonie d'Internet, des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information?
Oui, disons que c'était essayer de créer du durable là où on n'a que de l'éphémère, et au moment où on lit beaucoup de nos informations sur le format d'un tout petit écran, d'avoir du papier qui se déplie, qui devient très grand, pour montrer que physiquement, je pense que la lecture, est-ce que rappelait tout à l'heure Jean-François Colucci-Simo sur le codex, qu'est-ce que c'est, combien de signes on va lire, il y a un début, un milieu, une fin, et ça je pense que hiérarchiser, disait tout à l'heure la déhiérarchisation, redonner une hiérarchie à ce qui est important, oui c'est tout ça, parce que on n'arrive pas sur un réseau social à se dire ça c'est plus important qu'autre chose.
Vous allez quand même promouvoir la réécoute de cette émission sur vos réseaux sociaux, Sylvie Kaufmann.
Oui,
je me sers plus de Facebook. Bah, c'est l'occasion, vous voyez.
C'est pas une émission qui clash, justement.
Non, vous pourrez en dire du bien.
J'en ai aucun. Je m'en parlerai à mes voisins.
Et ben voilà, mais on va vous créer un compte, Jean-François Colosimo. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre, Jean-François Colosimo. Donc Sylvie Kaufmann, Catherine Tricot et Eric Fottorino. Émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud. À la prise de son aujourd'hui, il y avait Ludovic Auger.